Voilà, donc c'est dans cet atelier, on aborde le rôle de l'industrie pharmaceutique dans l'extension du domaine de la pathologie. L'extension du domaine de la pathologie repose sur plusieurs techniques, plusieurs moyens. Donc c'est l'assimilation des facteurs de risque à des maladies, la manipulation des normes biologiques et cliniques, le façonnage des maladies et la multiplication des dépistages sont des bénéfices démontrés. Alors là, on va aborder les outils qui sont utilisés par l'industrie pour pouvoir faire passer un certain nombre de messages. D'abord, les recommandations...
Avec la bienveillance de des autorités de santé.
Et avec, oui, avec la bienveillance des autorités de santé, tout à fait, bien sûr. D'abord, nous avons surtout les recommandations émises par les sociétés de médecine spécialisées qui sont financées par l'industrie ainsi que leurs leaders d'opinion. Comme recommandation récente, par exemple, nous avons celle de la Société européenne de cardiologie qui dit explicitement que chez les personnes qui ont un risque cardiovasculaire établi par score égal ou inférieur à 1%, c'est-à-dire les gens qui sont en très très bonne santé, il est impératif d'avoir un taux de LDL cholestérol inférieur à 1,16 g par litre, et que si ces personnes ont un taux entre 1,16 g et 1,90 g, doivent changer leurs habitudes d'hygiène alimentaire et physique, et si ce taux reste supérieur à 1,16 g de LDL, eh bien, il est souhaitable de leur administrer une statine. Alors, j'ai calculé que ça représentait 85% de la population française de 35 ans. Voilà. Donc, deuxièmement, les avantages offerts par l'industrie aux praticiens afin d'orienter leur prescription. Je vous montrerai l'essai qui est sorti récemment, qui a été publié par le BNJ, qui est un essai français. La sélection d'essais cliniques positives, cité de façon répétée au dépens d'essais négatifs, soit non publiés, soit oubliés, la mise en avant de publications biaisées ou embellies, les croyances, et surtout, ça repose sur la croyance du progrès continu de la médecine. Et enfin, un essai montre la surestimation par les praticiens des effets bénéfiques de leurs interventions qui est associée à la sous-estimation de leurs effets indésirables. On appelle ça les spin doctors. Qu'est-ce que c'est? C'est comment on peut manipuler les conclusions des essais randomisés tels qu'ils peuvent être relatés par la presse médicale. Par exemple, vous avez une méta-analyse qui est sortie récemment sur l'intérêt des statines chez les personnes de plus de 75 ans en prévention primaire. Eh bien, cette méta-analyse qui est par d'Oxford, le cholestérol triglycéride traitement sont des gens qui sont très très statinophiles. Ben, malgré ça, ils sont obligés de constater qu'il n'y a aucun bénéfice. Voilà. Et la façon dont c'est rapporté dans le site theheart.org, c'est les statines pourraient être utiles pour prévenir la morbidité cardiovasculaire après 75 ans en prévention primaire. Donc, certains se sont dit, tiens, ben il y en a peut-être un certain nombre, et il y a une revue systématique du JAMA qui date du mois de mai 2019, donc ils ont pris 93 rapports d'essais cliniques randomisés en pathologie cardiovasculaire, provenant de 6 revues à format. C'est des revues, des grandes revues, avec évidemment des comités de lecture. Les résultats non significatifs des critères de jugement primaire étaient jugés positifs dans 57% des résumés et 67% du texte principal des articles publiés. Autrement dit, quand le critère de jugement principal ne permet pas d'exclure le risque nul, mais que ça fait un peu tendance, voilà, on dit que ça fait un peu tendance parce que c'est un peu supérieur, mais ce n'est pas significatif, on conclut que c'est... Ben, c'est positif. Voilà, ou que ça pourrait l'être. Comme l'exemple que je vous ai cité concernant l'intérêt des traitements hypolipémiants après 75 ans. Suivant. Voilà une technique d'embellissement tout à fait classique, qui a été très étudiée, parce qu'il a fallu étudier en détail. C'est un truc relativement ancien. Vous avez 105 essais cliniques avec des antidépresseurs. Les rouges, les négatifs, les verts, les positifs. Vous voyez, c'est 50-50, 52-53. Comment on va s'arranger pour transformer ce pool d'essais cliniques? D'abord, on va publier dans les grandes revues, essentiellement les 52 positifs, et on va écarter la moitié des négatifs, 25. C'est ce qui s'est passé, hein. Après, eh bien, sur les 25 négatifs, il y en a 10 qu'on va rendre positifs par la technique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Colonne D, vous voyez, ben, il ne reste plus que 4 articles négatifs pour les autres qui ont verdi. On a verdi les spines et à la fin, les 6 positifs, bien plus nombreux, sont cités 3 fois plus souvent. Autrement dit, on part d'un nombre d'essais positifs et négatifs égaux et on termine, voyez, par un taux de positivité très élevé, simplement en manipulant les résultats et en évitant, en ne publiant pas certains essais. Donc, c'est des techniques d'embellissement. Ça, c'est le travail qui est sorti récemment, qui montre que finalement, ben, les médecins qui reçoivent des labos, les collègues vous disent « Oui, mais moi j'ai gardé mon sens critique, je ne suis pas influencé, la publicité, etc. » C'est les autres, mais pas moi, mais tout le monde. Vous avez entendu ça
mon œil.
De façon très fréquente. Les études anglo-saxonnes, alors il y a eu tout un rappel qui montre que c'est faux et que les médecins sont inspirés par la publicité de façon très claire. Alors en France, il n'y avait pas eu d'études. Alors les Français pensent toujours qu'ils sont à part. C'est comme l'histoire du traitement hormonal de la ménopause ou du nuage de Tchernobyl. Donc, il y a une étude rétrospective qui a porté sur l'année 2016, qui a croisé les prescriptions de 41 257 médecins généralistes. C'était issu du système national de données de santé et les données de transparence santé. Les auteurs ont une association entre nature et coût des prescriptions, avec le fait de recevoir ou pas des avantages des laboratoires. L'absence d'avantages est associée à des prescriptions moins coûteuses, plus de génériques, moins de vasodilatateurs et des benzos pour une durée moins longue, moins de sartans par rapport aux ISE. Voilà. Donc, c'est intéressant de savoir que les Français ne sont pas différents des autres et qu'ils sont aussi influencés par les petits cadeaux de l'industrie pharmaceutique.
Sauf que l'industrie est quand même plus borderline comme chose. Hein.
Comment ?
L'étude est plus que borderline, mais bon, ça on pourra...
Oui, mais ces études ont toujours un certain nombre de biais méthodologiques
majeurs.
Oui, mais c'est comme toutes les études d'opinion et de sociologie, il y a beaucoup plus...
Mais après ça fait, en termes de présentation, après, ça donne pas le sentiment qu'en pratique, on est dans une présentation équitable des choses.
Oui, mais enfin, il y a quand même... de nombreuses études. Alors moi, j'en ai plusieurs.
C'est tout.
Je la rapporte parce qu'elle est française, mais il y a des études. C'est vrai qu'il y en a qui sont plus rigoureuses qui ont été faites aux États-Unis. Voilà.
Non, mais l'industrie fait de la publicité pour les médicaments, ils ne le font pas pour dépenser leur argent. Ils le font pas comme ça. Ils ne le feraient pas si les Français étaient réticents.
Il y a des études qui sont sorties sur le rôle de la vie médicale dans l'influence des prescriptions, mais c'est assez ancien.
Je disais que la sécurité sociale s'est modélisée sur l'industrie pharmaceutique en envoyant les dames.
Non, c'est une pâle copie et c'est pour ça qu'elle n'a aucun résultat. Ça, on en discutera demain.
C'est pas péjoratif.
Ah, bah si.
Alors. Pourquoi les médecins sont réceptifs? Pourquoi ils sont réceptifs à l'innovation? Vous voyez, on a fait un sondage, c'est 48 études qui ont testé 13 000 cliniciens, 20 sur l'imagerie, 20 sur les... Alors il y avait 20 questions sur l'imagerie, 20 sur les traitements et 8 sur les dépistages. On a calculé quelle était la proportion d'effets correctement évalués. Parmi les bénéfices escomptés, 11% étaient correctement évalués, 9% sous-évalués 32% surévalués. Et puis, on a voulu regarder les effets indésirables escomptés. 13% étaient correctement évalués, 5% étaient surévalués, 34% sous-évalués. C'est-à-dire, d'après ces études, qui sont, bon, ça fait quand même près de 50, on voit qu'il y a une tendance à surévaluer les effets bénéfiques et à sous-évaluer les effets indésirables. C'est quand même une tendance qui est imprégne, mais je pense qu'on est nous-mêmes, même nous en étant très critiques, mais aussi dans ce cadre-là, souvent, c'est lié probablement à la façon dont on a été formaté lors de notre formation initiale et la suite. Puis, on a envie que ce qu'on fait, ça marche. C'est aussi notre désir. Alors, oui, non, il y a un petit problème, c'est pas celle que je voulais passer, mais c'est pas grave. Alors, j'ai pris, je t'ai donné la mauvaise, c'est pas important, c'est celle que je voulais passer initialement. Je voulais présenter parce que trois exemples de surmédicalisation actuelle qui persistent. C'est l'invention d'une maladie, la ménopause, le changement des normes, l'HTA, et puis la confusion entre facteurs de risque largement surestimé et maladie, l'exemple du cholestérol. Voilà. Donc, la ménopause. Alors, c'est très intéressant parce qu'il y a eu vraiment une rupture dans l'histoire de la ménopause. Ça a été la grande étude randomisée, la première fois qu'on faisait une étude randomisée versus placebo, c'est l'étude WHI qui portait sur la comparaison du traitement hormonal substitutif par rapport au placebo chez 16 000 femmes ménopausées. En 1942, le prédarin est le premier traitement approuvé pour les troubles du climatère par la FDA. En 1966, paraît un best-seller écrit par le docteur William Robert Wilson, un gynécologue, Feminine Forever, qui aura pour conséquence une augmentation importante des prescriptions d'oestrogènes chez les femmes ménopausées. On apprendra ultérieurement par son fils que la publication de commercialisation de cet ouvrage a été payée par Huet, fabricant du prémarin, et que la Wilson Research Foundation a reçu $1,300,000 pour faire la promotion des oestrogènes. Au cours des années 70, on assiste à la construction d'une pathologie endocrine qui sera la ménopause, nécessitant de fait, y compris dans ses formes asymptomatiques, un traitement hormonal substitutif. À partir de 75, la constatation du triplement de cancer de l'endomètre s'accompagne du chute des ventes d'oestrogènes. On découvre qu'en faisant un traitement combiné œstrogène-progestatif, on réduit considérablement le risque et la promotion du traitement repart de plus belle. Ce traitement est censé prévenir les maladies cardiovasculaires, les démences, les cancers, la chute des dents, le vieillissement de la peau, la dégénérescence maculaire, l'ostéoporose, que sais-je. Et le laboratoire qui commercialise l'association acétate de métroxyprogestérone et œstrogène conjugué et éteint s'adresse à une entreprise de marketing, Design Right, pour promouvoir ce produit. Alors, comment ça se passe? Celui-ci rédige des publications scientifiques démontrant les bénéfices du THM. Elles sont signées par un leader d'opinion en échange d'une rémunération conséquente. C'est ce qu'on appelle le ghostwriting, les écrits fantômes. C'est courant. C'est-à-dire que c'est un groupe de personnes spécialisées dans le marketing, mais comme une formation scientifique, qui rédige une publication sur une étude cas témoin, par exemple, ou autre, et qui l'a fait signer par un leader d'opinion moyennant une rémunération adéquate. Donc, comment on sait ça? Eh bien, c'est les enquêtes motivées par les 14 000 plaignants côtoyettes qui ont permis de découvrir cette pratique frauduleuse, qui est encore aujourd'hui largement utilisée par l'industrie. Donc, l'essai WHI va montrer, cette étude randomisée, que finalement, il n'y a pas de bénéfice à donner systématiquement un traitement hormonal de la ménopause, et que, en revanche, on sait qu'au-delà de 5 ans, ça augmente le risque de cancer du sein. Alors, ce risque de cancer du sein a été établi et précisé récemment par une grande étude qui est publiée dans le Lancet. Et on a évalué qu'en traitant 50 femmes pendant plus de 5 ans par THM, on favorisait la survenue d'un cancer du sein. Alors, c'est une étude aussi qui a des biais méthodologiques. Hein, c'est clair, ils veulent tendre le coup au THM. Ils ont pris quand même un nombre considérable de publications et ils ont évalué que le nombre de femmes
sur 50,
à qui on peut attribuer l'existence d'un cancer du sein à cause du traitement hormonal donné pendant 5, plus de 5 ans, il est évalué sur 30 ans dans le monde à 1 million. Voilà, c'est, je ne l'ai pas détaillé là. Mais... Alors, sur l'hypertension artérielle, ça c'est quelque chose d'extraordinaire parce que les études épidémiques, alors vous savez que ça a été, ce sont les assurances au début du XXe siècle qui ont mis le doigt sur le fait que l'hypertension artérielle était un facteur de risque cardiovasculaire. Ce ne sont pas les études épidémiologiques, c'est les assurances. Donc, effectivement, ça a donné lieu à des études épidémiologiques qui ont confirmé que c'était bien un facteur de risque cardiovasculaire. Tout le problème, c'est les seuils, ce sont les seuils. Alors, on ne voit pas d'augmentation du risque d'accident vasculaire cérébral en dessous de 115-75. Voilà. Donc, le risque commence à 115-75. C'est-à-dire qu'il commence à des niveaux, finalement, très bas. On définit, l'OMS en 79 va définir les normaux tendus. C'est en dessous de 140-90. Et les hypertendus, c'est au-dessus de 160-95. Avec entre les deux une zone grise. Jusqu'au début des années 90, le traitement porte sur la PA systolique, la pression artérielle diastolique. Et on va le baisser, alors au début il était très haut ce seuil, il était de 115, on va le baisser à 109. Et après on va le baisser plus bas. Il n'y a aucune preuve qu'un traitement anti-HTAS et des patients présentant l'hypertension compris entre 140-90 et 159-99 patients sans autre facteur de risque, je ne l'ai pas précisé, il faut le dire, sans autre facteur de risque, pas pareil s'ils ont insuffisance rénale, par exemple, on n'aura pas la même attitude, voire s'ils ont un diabète. Donc, pour les autres, on n'a pas trouvé de bénéfice clinique. Une méta-analyse de la Cochrane, collaboration en 2012 à partir de 4 essais randomisés pendant une durée de 5 ans, ne retrouve aucune baisse de mortalité cardiovasculaire, ni des AVC, ni des IDM, avec cependant une intolérance dans 9% des cas. Encore une fois, il s'agit de patients sans autre facteur de risque. Donc, à partir des années 90, les essais prennent en compte la pression systolique. 98, l'OMS définit l'HTR comme étant supérieur à 140-90. Donc, c'est plus tout à fait ce qu'on avait au début. Chez les insuffisants rénaux et les diabétiques, l'HTR est défini au-dessus de 130-80. Recommandation de la HAS, cible en dessous de 140-90, sauf pour les diabétiques et les insuffisants rénaux. 2012, plusieurs essais randomisés remettent en cause le seuil de 130-80. On le remonte un peu chez les diabétiques. Et 2014, chez les plus de 60, on remonte aussi à 150-90. Et puis, il y a une publication qui va montrer... Attention, une population hyper sélectionnée, c'est Sprint. Que la mortalité baisse quand la tension est encore plus basse en dessous de 130. Et on va changer aux États-Unis les définitions d'hypertension. Avant, on parlait de préhypertension à partir de 130, 80, 149. Ça va être fini. On va parler d'hypertension artérielle, c'est-à-dire entre 130, 80 et 139, 89. C'est une hypertension artérielle de grade 1. Voilà, donc la population américaine hypertendue augmente de 32 à 46%. On a changé les normes, donc voilà la recommandation. Et ça va être repris de façon plus timide par la Société européenne de cardiologie. Les hypertendus de grade 1 doivent modifier leur mode de vie ou être traités en cas de facteur de risque. Tous les hypertendus de grade 2 doivent prendre un traitement. C'est le triomphe du docteur Kolnock. Et alors, la Société européenne de cardiologie préfère parler dans ce... de normal haut, plus haut que l'hypertension, c'est vraiment, quelque part, ça ressemble un peu à de l'hypocrisie. Voilà. Bon, les recommandations, la foire d'empoigne, effectivement, ça change tous les ans. C'est quand même... Bon, on finit par perdre son latin, et à ne plus rien à comprendre. C'est vrai que ça ne fait pas très sérieux quand on change les normes de façon tous les ans, parfois en revenant en arrière, parfois en allant plus loin. Le cholestérol. Alors, ça, c'est un facteur de risque surestimé et traité comme une maladie. Vous savez que la seule maladie du cholestérol qu'on connaît, la seule maladie des frais, ce sont les maladies monogéniques dues à des mutations des récepteurs du LDL ou à des mutations sur la polypoprotéine. Eux, ça, c'est une vraie maladie du cholestérol. Et quelle est la différence entre quelqu'un qui a un cholestérol élevé à 2,20 g, 2,30 g de LDL à 40 ans et quelqu'un qui aurait un taux semblable, mais chez qui ça sert d'origine monogénique? La différence, elle est très simple. C'est que l'exposition en cas de facteur monogénique, elle commence avec le cholestérol élevé dès la vie fœtale. Dès l'enfance. Alors que chez quelqu'un qui n'a pas cette mutation, l'exposition à ce taux élevé risque de commencer vers la quarantaine, la cinquantaine. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est la différence fondamentale auquel ceux qui font des recommandations noient le poisson en disant au-dessus de 1,90 g, c'est une maladie grave, la preuve, c'est qu'on est fort monogénique, ils en meurent, donc il faut traiter tout le monde. Le BMJ avait évalué la proportion de gens qui ont une maladie monogénique chez les gens qui ont plus de 1,90 g. Une fois que vous êtes dans la population normale, c'est-à-dire elle n'est que de 2%, puisque dans la population normale, c'est 1 pour 500, donc c'est 2 pour 1000. De 2 pour 1000, on passe à 2%. Ça veut dire que dans 98% des cas, ce n'est pas monogénique, il n'y a pas lieu de traiter systématiquement. D'autre part, il y a l'étude d'Ansel Keys. Ansel Keys, c'est le pape des hypolipémies aux États-Unis. C'est quelqu'un qui a fait deux découvertes. D'abord, il a estimé que le cholestérol était la cause de la maladie athéromateuse, ce en quoi j'estime que c'est à remettre en cause. Et puis il a fait une autre découverte qui, elle, a été confirmée, c'est l'intérêt du régime méditerranéen. Il a montré que c'était un facteur qui protégeait les maladies cardiovasculaires, qu'il croyait tellement qu'il ne s'est nourri que de régime méditerranéen. Il allait beaucoup en Grèce et en Italie. Il croyait tellement que ça augmentait l'espérance de vie. Il est mort à 102 ans. Vous voyez, c'est une professeure réalisatrice. Donc, dans une étude qui s'appelle l'étude des 7 pays, c'est une étude fondamentale parce qu'une grande partie de la médecine des lipides est fondée sur cette étude. On a fait une relation entre graisse saturée et maladie coronarienne, mais au début, il y avait 22 pays. Il a sélectionné que ceux qui allaient dans le sens de cette hypothèse. Parmi les 22 pays, il y en avait un qui ne cadrait pas, c'était la France. Vous savez que la France est le pays industrialisé qui, après le Japon, malgré un taux de cholestérol dans sa population élevé au-dessus de la moyenne européenne, qui a le taux de cardiopathie ischémique les plus bas.
Comment ?
Voilà. Donc, on va passer au suivant. Il faut savoir, alors là, je ne suis pas dans le complotisme, mais quand même, il faut voir les manipulations auxquelles se prête l'industrie agroalimentaire sur ce sujet. Ça a été découvert récemment. En 1967, la Sugar Research Foundation finance le projet de 226, ça s'appelait. Trois scientifiques américains sont payés pour mettre en cause les graisses saturées comme facteur de risque ischémique et minimiser le rôle du sucre. Ce sont des journalistes d'investigation qui ont enquêté. Ça a été publié par le BMJ et la SRL se réservait le droit de modifier le texte avant sa publication. Donc il a été publié dans New England avec comme conclusion que la seule intervention diététique utile est de remplacer les graisses saturées par les polyinsaturées et le sucre, le sucre est totalement innocenté. Or la suite a montré que c'était une erreur, que ça joue un rôle majeur dans les maladies cardiovasculaires. La suite. Une méta-analyse de 21 études ne retrouve pas d'association entre consommation d'acides gras saturés maladies cardiovasculaires, à condition de ne pas être au-dessus, on a calculé au-dessus de 10% de l'apport énergétique global. C'est-à-dire qu'il ne faut peut-être pas prendre un kilo de beurre tous les jours. Voilà, ça veut dire ça. Mais les gens qui prennent des graisses saturées en quantité normale n'ont pas plus de risque de maladies cardiovasculaires que les autres. Des études d'intervention substituant des oméga-6 aux acides gras saturés ne retrouvent aucun bénéfice. Et même dans une grande étude, là aussi, qui remettait en cause tout ça, c'était dans les années 70, montrait une augmentation de la mortalité après 65 ans, malgré une baisse de la cholestérine. C'est la Minnesota Coronary Experiment qui a été publiée en 2014 seulement par le British Medical Journal. C'est quand même l'un des grands journaux les plus indépendants de l'industrie pharmaceutique, le BMJ. Le plus dépendant étant aujourd'hui le New England Journal, puisque vous savez comment se finance ce journal. Il se finance par les tirés à part. Donc, quand il y a un nouveau médicament, il publie l'essai, et les tirés à part lui rapportent à chaque fois des millions de dollars. Donc, il a intérêt à publier de plus en plus d'essais qui peuvent donner lieu à des tirés à part et être de moins en moins regardant sur la qualité des études qu'il publie. Ça, c'est le problème qu'on a avec le New England Journal of Medicine. Les autres sont dépendants. Il y a, on parle des grands journaux généralistes que je connais, les plus spécialisés, je connais moins. Il y a le JAMA et il y a le Lancet et le JAMA, ils sont, disons, entre les deux. Et puis, il y a le BMJ qui est le plus indépendant des quatre. Voilà. Donc, seules les publications montrant un rapport entre niveau de cholestérol et risque cardiovasculaire sont sélectionnées. Et il y a d'autres études prospectives qui n'ont pas retrouvé de relation. Voilà, ça dépend qui paye l'étude. Et notamment les études de nutrition, les résultats dépendent dans la totalité des cas du financeur. Alors, ça, c'est, je vous montre l'épidémiologie. Vous voyez, la France, un apport, c'est pas 10%, c'est 20%. Je me suis trompé. Vous voyez les apports, tiens, appuie, ça va monter. Les apports en acide gras saturé énergétique total sont 16,5%, au-dessus de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de la Grèce et des USA. Et vous voyez à gauche, la France, que ce soit pour les hommes ou les femmes, la mortalité cardiovasculaire en Europe, vous voyez, c'est comme des escaliers, ça descend, et le plus bas, c'est la France. Le plus élevé était la Finlande, c'était une véritable épidémie. Ça a changé, le gradient nord-sud a été remplacé par un gradient est-ouest. C'était la Pologne après qui avait la médaille d'or. Mais les Polonais, comme les Finnois, ont pris des décisions de santé publique et ont baissé de façon drastique l'incidence de leur maladie cardiovasculaire. Mais ils ne sont pas du tout arrivés au niveau de la France. Voilà. Alors, les recommandations 2019 de la Société européenne de cardiologie. Ils font loin, puisque souvent la HAS les reprend, c'est ça. Quels sont les objectifs de LDL en fonction du risque cardiovasculaire? Risque très élevé, 0,55 grammes par litre. Score supérieur à 10%, c'est-à-dire personnes qui sont en prévention secondaire. Risque élevé, inférieur à 0,70. Risque modéré, 1 gramme. Et tous les autres qui sont sans risque cardiovasculaire, en dessous de 1,16. Donc, ils considèrent que pour le bas risque, en cas de chiffre de LDL inférieur à 1,16 et inférieur à 1,90, ils font intervenir sur le mode de vie. Ce sont des malades qui s'ignorent. Et si le chiffre reste dans cet intervalle, il faut prescrire une statine. Autrement dit, la Société européenne de cardiologie propose une médicalisation de toute la population ayant un LDL supérieur à 1,16 g, quel que soit le risque cardiovasculaire, surtout la population à risque bas, parce que soit 75 à 85% de la population française de plus de 35 ans, puisque j'ai déduit ça à partir de l'étude Esteban qui calcule le taux moyen de cholestérol en France. Voilà. Et la majeure partie serait statinisée, parce que c'est très difficile de descendre le cholestérol au plus bas avec simplement les modifications alimentaires. Pourquoi ce risque très élevé? Ils ont baissé la norme à 0,55 grammes. Et bien, tout simplement, il y a l'arrivée de nouveaux produits qui s'appellent les anti-PCSK9, qui sont des anticorps monoclonaux. On sait que quand on donne des statines à quelqu'un, ça entraîne une hypersécrétion de PCSK9 qui remajeure un peu le taux de cholestérol pour renforcer l'effet des statines, pour baisser le là possible, si on nous donne des anticorps monoclonaux anti-PCSK9 ou bientôt un produit qui agit sur l'ARN qui permet la formation de ces PCSK9.
Ils n'ont pas le remboursement dans les allocations en dehors de la cystéronémie comme aussi autre.
Aujourd'hui, en France, on n'a pas donné le remboursement. Alors, il faut distinguer les recommandations fondées sur les essais cliniques et ça, parce que l'industrie est en avance.
D'accord, mais à l'heure actuelle...
Non, ce n'est pas remboursé. Non, mais toi, tu as raison de le dire. Aujourd'hui, en France, la Sécu, enfin, la France a refusé le remboursement de l'évolocumab et de l'adirocumab, qui sont les deux qui ont été validés par les essais cliniques, pour l'instant. Combien de temps on va résister?
Tu vois, tant que la commission transparence existera.
Oui, non, mais c'est bien. Oui. Mais tu sais que le poids des industriels qui ont fait ces deux produits, il est absolument énorme. Hein? En attendant, il a réussi à faire changer les normes par la Société européenne de cardiologie, puisque cette société est financée par ses fabricants. Voilà. Alors, je voulais juste montrer le gradient. Vous voyez, il y a un gradient est-ouest et nord-sud. Vous voyez que le pays vert, c'est une partie de l'Espagne et pratiquement toute la France. C'est le taux de cardiopathie ischémique les plus faibles d'Europe. Les rouges, c'est les plus élevés.
C'est la frite. C'est la friterie.
Oui, c'est gradient. Parce qu'en France, le gradient nord-sud, c'est qui. On avait trois pôles. On a le pôle de Lille, le pôle de Strasbourg et le pôle de Toulouse. Et c'est en faisant ces trois pôles qu'on s'est rendu compte, c'était dans l'étude épidémiologique de Monica, on a vu qu'il y avait un pôle nord-sud. Alors, ce qui est intéressant, alors ça c'est une étude observationnelle, évidemment, on peut dire, c'est pas un essai randomisé, hein, mais il faut regarder les études épidémiologiques quand même si il y a tout. Toujours par définition des biais. Quand même, les Américains ont fait une étude sur près de 115 500 personnes hospitalisées après un infarctus du myocarde. Et alors, ils ont trouvé un résultat inattendu qui n'explique pas. Alors, je le donne, mais il n'y a pas d'explication. Qui se trouvait dans les gens qui avaient le quartile le plus bas de LDL cholestérol, c'est-à-dire inférieur à 0,77, avaient une augmentation de leur mortalité de 15 à 20%. Ils ont parlé de paradoxe lipidique, c'est-à-dire qu'ils ne savaient pas quoi conclure devant ce qui remettait en cause les recommandations de baisser le plus bas possible. Voilà.
C'est pour vous. Sauf qu'il y avait quand même une étude qui avait montré que dans les USIC, en France, pas qu'en France d'ailleurs,
c'est fascinant.
C'est la majorité des patients qui ont un infarctus avait un cholestérol très élevé et qui n'était pas pris en charge.
Oui, non, mais c'est vrai, mais il faut savoir que Fastenheim, c'est quand même publié par l'équipe qui travaille sur TheHeart.org, qui sont à fond pour des taux très bas de cholestérol, et effectivement, ils ont un certain nombre de gens qui ont des taux de cholestérol non pris en charge. Mais aujourd'hui, les études épidémiologiques montrent en France, ça a été fait, que le premier facteur de risque, c'est le tabac. Dans toutes les classes d'âge, chez les hommes et les femmes, il y a une baisse très importante de l'incidence des cardiopathies ischémiques, sauf dans le groupe des femmes de 35 à 55 ans, et c'est corrélé au tabac. Autrement dit, ce qui a joué dans la baisse de la mortalité cardiovasculaire en France, parmi les éléments en prévention primaire, c'est d'abord la baisse du tabagisme. Le taux de cholestérol reste toujours relativement élevé et sont mal corrélés. C'est un facteur de risque, mais qui est beaucoup moins important aujourd'hui dans les études épidémiologiques que le tabagisme.